Toute cette histoire, c'est d'abord la vôtre.
Oui, bien sûr, la mienne. Mais alors, laissez-moi la raconter comme je veux. Parce que j'ai pas comme vous, l'attirail du savoir, ni des lois. Parce qu'en la racontant à ma manière, moi je sais pas, ça me fait quelque chose de doux au cœur. Comme si je flottais, ou quelque chose comme ça. Peut-être comme si rien n'était jamais arrivé.
Cette histoire, c'est celle d'un homme ordinaire qui va se faire justice lui-même et passer par-dessus bord, Antoine Laznec, promoteur et arnaqueur. Cette histoire est un roman écrit par Tanguy Viel et ce roman vient d'être adapté au théâtre par le metteur en scène Emmanuel Noblet. Bonjour.
Bonjour.
Article 353 du Code pénal, c'est le titre du roman et c'est celui du spectacle. Titre un peu rugueux, je trouve, un peu oui. Administratif. Oui. Mais il faut quand même préciser que cet homme, l'assassin, est face à un juge qui doit décider de la qualification des faits. Mais spontanément, ça ne donne pas envie. Mmh. Code 353.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Tanguy Viel lui-même a simplifié ce titre, parce que si on est exact d'un point de vue juridique, il s'agit de l'article 353 du Code de procédure pénale. Mais ça aurait été encore plus long et peut-être encore plus dissuasif dans le titre, qui est cet article fameux, sans doute le plus beau de toute la littérature juridique, qui est l'article qu'on lit à tous les membres d'un jury d'assises pour leur dire à la fin des débats, comme il a été lu à la fin du procès Pellicot et même dit par cœur par le président, je crois, en disant « bon voilà, vous avez entendu des débats, des arguments, ne retenez qu'une chose ». Dans la sincérité de votre conscience, ne retenez qu'une chose, c'est quelle est votre intime conviction. C'est l'article de l'intime conviction.
Mais alors, c'est quoi l'intime conviction? Parce qu'en effet, cet article 353 existe bien. Il introduit quoi? De la subjectivité?
Complètement, complètement. Je crois que c'est une manière de dire à tous ces hommes et femmes qui rendent la justice au nom du peuple français, ils ont été tirés au sort et doivent se décider. On leur dit, écoutez, vous avez entendu des semaines de débat, tous les arguments, mais vous, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi votre intime conviction? Et elle est sidérante, cette question. Je ne sais pas, j'ai encore du mal à le définir, parce que la pièce agite et remue ces questions-là, mais ne donne pas de réponse. Et la fin, d'ailleurs, est problématique. On peut en parler, si vous le souhaitez. Mais elle est mystérieuse, l'intime conviction. Et c'est sans doute ce qui permet aussi à des jurés d'éviter la prison. Mais c'est un arbitraire subjectif, oui, c'est vrai.
Alors, le roman est écrit en 2017, mais j'ai l'impression que l'actualité l'a rattrapé ces jours-ci, quand le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dit qu'il faut supprimer les sursis, les aménagements de peine, être plus sévère avec des peines planchers, et que face à lui, ce matin même, le procureur général de la Cour de cassation, sur une radio qui est France Inter, dit « laissez les juges travailler, il faut que les sanctions soient individualisées ». Et c'est toute la question du spectacle.
Oui, totalement. Et Le spectacle, il pose ces questions-là. Bon, l'actualité nous ramène toujours à cette concurrence législative, comme s'il n'y avait jamais assez de lois et qu'il faudrait faire une loi par fait divers et amener à chaque fois une nouvelle règle. Je crois que les juges, enfin, et mes souvenirs d'anciens juristes, j'avais fait 5 ans de droit avant de faire du théâtre, tous disent qu'il faut arrêter de faire une loi par fait divers et que d'ailleurs, une loi ne change pas un comportement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il est bon de se rappeler. Mais le spectacle, il convoque ces idées. Et surtout, pour certains magistrats qui ont vu le spectacle, ils disent que ça convoque une autre idée qui est que tout à coup, alors est-ce que c'est un spectacle qui date déjà, mais l'action se situe en 1998, mais dans cette fiction, cette utopie, il y a un juge qui a les moyens d'entendre, il écoute pendant longtemps un homme. Cet homme a un tribunal à proximité, il n'est pas vu en visio. Enfin, c'est une justice qui a un peu des moyens. Et certains amis magistrats m'ont dit, mais c'est quasiment c'est déjà de l'ancien temps, quoi. Et ça, c'est terrible d'entendre ces choses-là, que ce service public-là en soit là aussi par faute de moyens.
Alors l'histoire, c'est avant le procès. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura procès ou pas. C'est une des questions du spectacle. Ouais, c'est la première rencontre entre ce juge et le personnage principal, Martial Kermer, qui va donc raconter au magistrat l'engrenage qui l'a mené au meurtre dans une très longue explication. C'est presque un monologue. Mmh. Et finalement, nous sommes là, nous, spectateurs, à l'écouter et à se demander au fil des minutes qui est la victime. Est-ce que c'est l'homme, le promoteur qu'il a jeté à la flotte sur un bateau en pleine mer, ou si c'est lui qui a été, d'une certaine façon, et je mets des guillemets, obligé à le pousser.
Alors obligé, c'est la question, le mot est fort, hein, mais...
C'est pour ça que je mettais des guillemets.
Oui, vous avez bien fait de le dire. Non, c'est vrai, c'est la victime, c'est évidemment l'homme qui est jeté à l'eau et qui en meurt. Et donc l'accusé, c'est cet homme, Martial Kermer, qui se rend de lui-même aux policiers, hein, ils viennent le chercher et il est placé devant un juge et il va commencer à raconter pourquoi il a fait ça. Mais à force de l'entendre... est-ce qu'on ne pourrait pas changer d'avis en fait sur et c'est évident que cet homme est coupable, mais est-ce que se faire justice soi-même dans un monde injuste ou là dans une histoire où véritablement lui a été victime d'escroquerie, ça pose plein de questions. Sans doute qu'il aurait dû mener une action en justice avec les autres qui ont été escroqués, etc. Mais avait-il seulement les moyens, le capital culturel, si on faut employer des mots de sociologie, parce qu'il y a beaucoup de ça, il est question de rapport de classe, de lutte des classes, le mot est reconvoqué là. Le fait est qu'il s'est fait justice lui-même et qu'il a, au nom de tous ceux qui ont été escroqués.
Et puis pour le spectateur, on voit cet homme, il y a une incarnation, magnifique intervention, puisque Martial Kermer est joué par Vincent Garanger.
La suite, vous la connaissez. La suite, elle est écrite par les courants qui savent rejeter les corps le long des côtes. Vous pouvez appeler ça homicide volontaire, ou je ne sais pas quelle expression. Mais ce que j'ai fait, monsieur le juge, ça ne me donne pas le sentiment d'être un meurtrier. Mais ce que j'ai fait, je l'ai ostracisé. Vous comprenez ? Ostracisé. Comme une verrue qu'on brûle pour régénérer la peau. Si la peau, ici, c'est notre ville. Alors il y a un moment, il faut savoir enlever le mal à la racine. Moi, je l'ai fait pour notre bien à tous. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment tué. Pour ce qui est d'en finir physiquement avec lui, la mère a eu l'air de s'en occuper mieux que moi. Mais la justice, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça.
Peut-on se faire justice soi-même ? Grave question qui pourrait être aussi, Emmanuel Doblet, celle de l'autodéfense. Mais bien sûr, ni vous, ni Tanguy Viel ne répondent à cette question.
Oui, j'avais appris par Tanguy qu'en Allemagne, son roman a été traduit par autodéfense. Justice par soi-même. C'est votre mot, défense, qui m'a fait penser ça. Et effectivement, la question se pose. Elle est évidemment, d'un point de vue légaliste, moral, insupportable. Ça mène à une société sans loi.
Et ou avec la loi du talion.
Exactement, c'est la loi du talion. Mais force est de constater que face à des répétitions d'injustice, des cols blancs impunis et des maltraitances sociales à répétition, enfin, les gens nous demandent à chaque fois, mais ça vient d'un fait divers, je connais un tel, ça lui est arrivé, un tel, ça lui... Et en fait, non, mais tout le monde connaît ça, parce que ça arrive. Comment se faire justice ? Comment chercher la justice ? Moi, ça m'interroge beaucoup, ça me passionne.
Article 353 du Code pénal soulève donc des questions de société, mais aussi et surtout la question de l'humanité, finalement, chacun de nous. C'est le cas du roman, c'est le cas aussi avec votre pièce de théâtre, et nous avons toute l'émission pour en parler. Et ce que nous ferons après, Odezen, c'est un groupe bordelais qui sort son 7e album, Doula, et ce titre, Houston. We'll be right back.
l'occasion de leçon. J'apprends pas la leçon, digérer la meçon. Plus rien dans le caleçon, bon mec, mauvais garçon. J'kiffe quand y'a du frisson, deuxième groupe terminant hisson. Sauce piquante sur hérisson, l'esprit en colimaçon. Structuré franc-maçon, Yakuza sur cheval d'arçon. Claque la gueule main de maçon, nique sa mère de vingt façons. C'est sans contrefaçon, on finit dans le cercueil. J'ai la vie, elle est belle, et je rame. Tu m'as dit que tu m'aimes, et je râle. J'arrive détente, nique ta, nique ta. J'remonte la pente, des fois comme je peux. T'as fait le même, c'est comment. Ma meuf est belle, belle, noire comme la Seine. Belle, belle, la vie est belle, blanche comme Le Pen. Plus rien à perdre, j'ai lâché sperme.
Odezen sur RFI avec cette rengaine, la vie est belle mais je rame. On n'est pas loin d'article 353 du code pénal, roman de Tanguy Viel adapté pour le théâtre par Emmanuel Noblet, notre invité. Pièce de théâtre et roman qui sont donc le récit d'une arnaque immobilière et d'une vie brisée, celle de Martial Kermer. Alors il faut peut-être un tout petit peu rentrer dans son récit et dans sa vie, Emmanuel Noblet. Mm-hmm. Il a été licencié de son usine, il a eu des indemnités, 400 000 francs, puisqu'on est dans les années 80, on parle en francs à l'époque, et il les a confiés à un promoteur immobilier qui lui a fait rêver à un trois pièces avec vue sur mer. Il faut préciser qu'on est en Bretagne, Tanguy Viel est breton, et tout ça va faire plouf, parce qu'il ne reverra jamais son argent.
Voilà, et il a fait le coup à tous les habitants du bourg, et un bon nombre d'arsenalistes, j'ai appris qu'on les appelait comme ça, des licenciés des chantiers de l'Arsenal.
De Brest.
Et c'est pas rien d'ailleurs, parce que ça correspond aussi à toute une époque où ces gens de beaucoup de gauche militants ont cru aussi en mai 81. Cette mémoire-là est convoquée dans le roman et dans le spectacle. Et qu'est-ce que c'est pour des gens de gauche d'avoir fait confiance et d'avoir tenté une spéculation immobilière, d'avoir placé son argent et pour gagner un peu plus de sous. Et en fait, cet homme-là, Martial Kermer, il n'ose pas en parler, il n'ose pas le dire.
Donc il y a un peu de honte.
Il y a un peu de honte et c'est pas rien. Je pense que c'est tout à fait révélateur aussi d'une époque où il est dit dans le spectacle, oui, pour des gens de gauche, c'est sûr qu'on a changé. Et c'est comme une charnière du siècle et un moment où la gauche aussi s'est convertie. Enfin, c'est l'après 83, la rigueur, etc. Et c'est pas rien et on le ressent, ça. Et cet homme-là a honte de parler d'investissement immobilier au point qu'il n'en a parlé à personne et que du coup, ils n'ont pas fait d'action collective contre cet escroc.
Et à la sortie de son roman, Tanguy Viel, qui était l'invité de RFI dans Littérature sans frontières, donnait les contours de ce personnage de Martial Kermer.
Il peut représenter la figure de l'indécision, c'est-à-dire de quelqu'un qui, au fond, n'est pas assez convaincu de sa propre existence ou qui n'est pas atteint un degré suffisant peut-être de souveraineté à l'égard de lui-même pour ne pas être sans cesse au péril ou au risque d'être en fait dominé, en fait pris par quelqu'un d'autre ou de se tromper en fait dans son existence. Voilà. Et je crois que le parcours qu'il raconte, c'est celui d'un engrenage d'erreurs qu'il constate a posteriori et qui effectivement l'auront poussé à l'exaspération.
Et quand il s'agit de mettre en scène ce personnage, Emmanuel Noblet, vous lui faites baisser la tête tout le temps. En tout cas, au début, le signe comme ça d'une sorte d'accablement et de soumission.
Oui, parce que c'est l'histoire d'un homme qui se redresse, en fait, qui d'un accablement va vers une forme de résolution personnelle, mais cet homme qui, comme le dit si brillamment Tanguy, cet homme qui n'aurait pas eu confiance en lui, qui aurait été dans une indécision totale, il est passé de cette victime de la domination sociale à une souveraineté personnelle. Il le dit à un moment dans le texte, peut-être une souveraineté, et il a vaincu, il a fait sauter une sorte de plafond de verre comme ça, mais au point de commettre l'irréparable, hein, quelque chose de le meurtre, quoi. C'est terrible.
Mais c'est l'incarnation de l'homme exploité, de celui qui perd toujours, parce qu'il perd toujours, même au loto. Le seul jour où il a les bons chiffres loto, il a oublié de valider le billet.
Ouais, ça, l'histoire est terrible, elle est bouleversante et ça révèle évidemment quelque chose de cet homme-là. Il y a d'autres passages dans le roman où c'est développé encore. Moi, je n'en ai gardé qu'un tiers pour le spectacle. Mais oui, cet homme victime de tout voit aussi, parce qu'il faut en parler de ça, parce que ça devient un autre sujet dans ce polar, il voit son fils qui, lui, se résout à ne pas être victime de tout. Et son fils passe à l'action. Fait aussi lui-même une grosse connerie, comme il est dit. Je raconte pas toute l'histoire. Mais il voit son fils le dépasser, ne pas être dans l'indécision, être combatif et ne pas se résoudre à être une victime sociale éternellement comme lui s'y est accoutumé. Et du coup, il faut qu'il soit à la hauteur au moins de son fils. Il y a tout ce rapport à la transmission qui est bouleversante. Enfin, ce rapport est bouleversant et surtout notre interprète, Vincent Garanger, qui nous bouleverse, moi, chaque soir, justement en convoquant des choses très, très personnelles. Et les spectateurs, moi, j'aime les entendre dire, mais au début, on croit que c'est un polar, et en réalité, ce que ça raconte de notre rapport aux enfants, c'est fou.
Et vous jouez le juge.
Oui.
Il faut
dire
le juge. C'est pas le rôle le plus marquant de votre carrière.
Non, vous avez combien
15 répliques à peu près.
Ah ouais, non, mais j'avais jamais fait ça, hein, d'ailleurs, et c'est un exercice que je recommande aux acteurs, parce qu'on n'apprend jamais à écouter. Et alors moi, ça me va là aussi parce que je suis metteur en scène et que je sens que mon écoute de Vincent, c'est aussi celle d'un metteur en scène qui voit son acteur travailler. Mais l'écoute du juge qui entend cet homme, c'est ce qui fait que cet homme va parler comme jamais et aussi qui fait que les spectateurs vont écouter et suivre le spectacle. Donc je sens que l'acteur que je suis est au service du metteur en scène, mais d'un point de vue strict de jeu, je travaille juste l'écoute, mais j'apprends beaucoup. Aussi.
Mais c'est un rôle essentiel, l'écoute, parce qu'il y a beaucoup d'empathie. Et ce que ressent le spectateur, c'est l'empathie pour ce personnage, ce grand perdant, en fait.
Exactement ça. Ouais, ouais. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus bouleversé dans ce roman, c'est ça, ce rapport à l'empathie, sans divulguer complètement la résolution. On a une première réaction de lecteur qui est « Ah, enfin un peu d'empathie dans ce monde !» et qui en manque cruellement. Et moi, en l'incarnant, je sens ça aussi, que c'est quand même très très rare, hein, d'avoir un homme qui écoute un autre pendant 1h40. C'est fou, ça n'arrive plus jamais. On a des temps d'attention, sauf dans une émission comme la vôtre de 30 minutes, mais sinon nos temps
ça
de concentration...
Ça n'est jamais que 30 minutes.
Oui, mais les temps de concentration, à en croire les algorithmes, c'est 8 secondes avant qu'on zappe. Et entendre quelqu'un, qui plus est un homme qu'on soupçonnerait volontiers d'être incapable de parler, ou d'avoir des émotions ou de réflexion, on découvre là un homme qui est d'une intelligence humaine, d'une sensibilité et d'un rapport à l'éthique. Il est guidé par une éthique personnelle une forme de justice sociale qui sont des guides précieux. Et c'est sublime à entendre, écrit par Tanguy Vielle encore plus.
Alors, article 353, c'est une histoire, mais c'est aussi, vous avez raison de le souligner, une écriture qui travaille aussi sur les méandres de la parole et de la pensée, et donc sur une forme d'emprise par le langage.
Et je me souviens, moi, je lui ai demandé, mais... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, à terme? Et je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la réponse, mais je me souviens qu'à terme, on devait gagner beaucoup, évoquant les 10 à 12% de rendement annuel. Et moi, j'aurais voulu ajouter des adverbes à chacune de ces phrases. Des probablement, des peut-être. C'est une drôle d'affaire, la pensée. N'est-ce pas? C'est pas qu'il y ait l'ombre en distance du cerveau vers les lèvres, mais... Quelquefois, quand même, ça peut vous paraître des kilomètres, le trajet, pour une phrase. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les jours qui ont suivi, au lieu de dire clairement non, comme ça se passait au fond de moi. J'ai pris le téléphone un soir et j'ai dit, Lasnec, j'ai dit, pourquoi pas, j'ai dit, je signe quand ?
Et par ce geste et par ces mots, le personnage va donc signer son malheur. Emmanuel Noblet, comment se passe le travail d'adaptation d'un roman qui n'est pas très long, mais qui fait quand même 174 pages, à un texte pour le théâtre, c'est-à-dire 34 pages ? On coupe, on réécrit.
Ouais, ouais. Non, c'est un travail de deuil qui consiste à couper en disant « Ah, mais ça, j'aime tellement ce qu'il dit là ». Bon, d'abord, c'est suivre l'intrigue. Là, il y a une intrigue qui est très forte, il faut la garder. Et ça n'est que de la coupe subjective en se disant, bon, là, si je garde, par exemple, le chapitre du loto, oui, il perd ce jour-là. Enfin, il aurait dû gagner, il ne l'a pas validé, il perd. Je ne garde pas cette métaphore sublime qui revient régulièrement sur une histoire de grande roue dans le roman, mais qui peut dire la même chose. Donc ça, je le coupe entièrement. Et de coupe en coupe, sans rien réécrire, parce qu'il faut absolument respecter la beauté de l'écriture de Tanguy Vielle, je ne fais que réduire et je garde un tiers.
Mais vous avez travaillé avec lui, vous lui avez demandé son accord, parce que ça pourrait vouloir dire que c'était trop long et qu'il pouvait couper.
Alors non, il sait bien que... Déjà, j'ai un acteur prodigieux qui arrive à ressortir 1h42 de littérature parfaitement. Il aurait fallu faire le triple et en temps d'apprentissage. Et puis, je ne pense pas que ce soit rendre service au roman que de jouer un spectacle trop long. Donc non, il savait que je couperais et il m'avait demandé à lire l'adaptation pour... s'assurer que je ne massacrais pas son écriture, et il m'a dit qu'il avait, enfin, il l'a validé entièrement, et j'étais heureux de ça.
Alors c'est un roman qui est très écrit, une très belle écriture de Tanguy Vielle, mais qui est aussi très oral.
Ouais.
Donc en fait, pour le théâtre, il n'y a pas de problème d'adresse. Puis en plus, ça se passe dans un lieu de parole, le bureau du juge, que vous avez transposé en scène de décors de chantier. Enfin, ils sont tous les deux dans un
le lieu
grand
de l'escroquerie,
trou.
Ouais.
Voilà, le lieu de l'escroquerie dans un grand trou de terre vide. Donc c'était peut-être un peu plus facile. Détrompez-vous, cher monsieur.
Non, mais je suis heureux de vous l'entendre dire que la langue est orale, parce qu'à la lecture, et j'en témoigne suite à la première semaine de travail qu'on a fait à la table, comme on dit, avec Vincent Garanger, c'est-à-dire que Tanguy Vielle, il écrit, c'est pas tant l'histoire qui est importante que le processus de pensée, l'analyse des rouages et de la manipulation et de comment un personnage pense, réagit, et voilà ce qu'il ressent. Et donc, il a des phrases d'une complexité terrible. Il y a un nombre de métaphores record dans son écriture. Je crois même qu'il s'en était amusé lui-même en disant, là, je crois que j'ai fait mon record de métaphores. Et en lisant des phrases, on disait, mais alors là, attends, il part par là, ensuite il va par là, mais ça, il n'y a pas de verbe, ça, c'est une incise, etc. Et en fait, il faut le talent d'un acteur qui est dans une pensée, dans une exactitude de pensée de ces méandres-là, qui prend chaque virage de cette analyse et qui le vit en direct pour croire que c'est sa manière de parler naturelle, alors que c'est vraiment c'est les éditions de Minuit. Mais on y croit quand même que c'est un homme du terroir breton.
De son personnage et de l'importance de la parole, je vous propose d'écouter encore Tanguy Vielle.
Je crois que le rêve que j'aime, et que je rêverais peut-être qu'il soit entre les êtres, c'est qu'on puisse toujours être à jour de ce que notre âme ressent, et que dans le langage qu'on parle, on soit à la même vitesse ou à la même transparence. Bon, c'est pas le cas. Et donc là, il y a une sorte de frottement entre ce qu'on ressent, etc., et puis ce qui se passe dans la parole. Alors, quelquefois, il y a des gens qui, en faisant usage de rhétorique, arrivent à bien masquer leurs émotions et à prendre le pouvoir. Et puis il y a ceux qui sont dans l'hésitation, la fragilité, dont la parole vacille sans cesse, et qui, je crois que c'est le cas un peu de mon narrateur, il voudrait tellement être honnête, mais en même temps, il n'a aucun langage pour l'être vraiment. Et en même temps, il est pris en défaut de situations dans la réalité qui font que, quelquefois, il se tait, quelquefois, il ne dit pas la bonne phrase quand il faudrait la dire. Et puis, par contre, je crois que devant ce juge, c'est là où je crois volontiers à la parole, un peu comme un lieu de réparation ou un exutoire ou je sais quoi. C'est que là, je crois que devant le juge, et donc le livre qu'on lit, j'espère, enfin, il arrive à déployer une parole. Mais cette parole ne fait que dire tous les moments où il n'a pas réussi à la déployer ou pas réussi à être juste avec elle.
Plus que le roman, le théâtre est le lieu de la parole, Emmanuel Noblet. Est-ce que c'est un lieu de réparation ?
Oh oui, je crois. Hier, il y avait Anne Alvaro qui est venue voir le spectacle. J'ai une admiration immense pour cette grande dame du théâtre. Et elle réagissait exactement à ça sur, et sur l'extrait que vous avez diffusé aussi tout à l'heure. Et quand Martial Kermer dit que, il dit au juge, j'ai pas les outils comme vous de la loi, de la pensée, etc. Mais là, tant que je suis là, tant que je parle, il ne peut rien m'arriver. Et elle disait, c'est la définition du théâtre, c'est l'histoire du théâtre. Sur scène, tant qu'on parle, voilà, il peut rien nous arriver. Et c'est le lieu de, oui, de la catharsis, la réparation, tout ce qu'on veut, mais c'est ce que dit Tanguy Viel qui est tellement brillant. J'adore l'idée d'être à jour de ce que notre âme ressent. Et ça, c'est ce que fait Vincent Garanger chaque soir.
Mais c'est vrai qu'entre lire le livre ou voir le spectacle, je ne saurais pas quoi conseiller à quelqu'un qui aurait envie de découvrir ce texte et cette histoire, parce que finalement, la parole, elle est là, elle est vraiment sur scène, quoi. Et l'écriture aussi.
Ah oui, moi c'est ce que j'aime, c'est respecter totalement l'écriture d'un auteur, d'une autrice, et les surprendre, parce que Tanguy Viel, par exemple, il ne pensait pas que ça serait du théâtre, et il a mis longtemps à accepter l'idée, comme Maëlys de Kerangal, qui savait que c'était une histoire orale quand j'ai adapté Réparer les vivants, mais qui n'imaginait pas que ça ferait rire, ou que ça provoquerait ça, ceci, cela. J'aime les surprendre en leur disant « c'est du théâtre », et vous allez voir, c'est fait pour être entendu, et la parole agit en direct avec les spectateurs.
Alors j'aurais pu ou j'aurais dû peut-être d'ailleurs vous poser la question d'entrée de jeu. Pourquoi vous choisissez des romans pour les mettre sur une scène de théâtre? Parce que vous avez cité Maëlys de Kerangal. En effet, ça a été votre premier grand spectacle adapté, transcrit, transposé. Je ne sais pas comment on peut dire d'un roman. Ça vous a valu d'ailleurs un Molière, mais vous avez aussi adapté Mathias Reinhardt, Lola Lafon, Laurent Chalumeau, Fabrice Caro, aujourd'hui Tanguy Viel. C'est quoi? C'est votre passion? C'est votre signature? C'est une défiance vis-à-vis des auteurs de
Mais
théâtre?
Non, j'ai honte vis-à-vis des auteurs dramatiques, des autrices qui sont formidables. Mais c'est simplement que moi, je suis un acteur et que je me suis retrouvé en position de devenir metteur en scène pour donner du boulot à l'acteur que j'étais et en tombant sur ce livre extraordinaire, Réparer les vivants. Et j'y ai trouvé là un terrain de jeu que j'ai adoré, qui consiste à couper et à faire comme un travail de montage, comme j'aime faire en vidéo. Donc ce travail de ciseau, il est ma subjectivité. Il est ma manière de le raconter tel que je le ressens et tel que j'ai envie de le jouer. Là où les auteurs, autrices contemporains, me proposent des textes où tout est déjà fait. Donc je n'ai plus ce jeu-là que j'ai appris à aimer. Et alors est-ce qu'un jour j'oserais faire de la mise en scène de textes où je n'ai pas cette expression à avoir, ce terrain de jeu-là? Peut-être, je ne sais pas.
Donc en fait, vous aimez bosser, vous aimez couper, vous aimez bosser.
Ouais, ça j'aime ça. Ouais,
merci beaucoup Emmanuel Noblet.
Merci
à vous. Article 353 du Code pénal est à voir au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 14 juin. Et puis vous filez au Festival d'Avignon où on pourra voir le spectacle au théâtre le 11 du 5 au 24 juillet. Quant au texte de Tanguy Viel, c'est aux éditions de Minuit. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, les applis RFI.fr, Pure Radio, vous ne pouvez pas nous rater. À très vite.